père, à l'époque où de ce récit s'appelle encore Abraham. Okay. Vous rappelez, je vous ai assez longuement parlé de cela. Okay. Que maintenant que nous vivons au niveau de la descendance des patriarches, l'histoire accomplie de l'acquisition de ces vertus, alors il nous semble que ça va de soi. Mais on ne perçoit plus l'effort de conquête, l'effort de d'émergence, de constitution de chacune de ces vertus pour elle-même. Et il y a toute une histoire de la mise au point de la Mida de Chesed. Et c'est très long jusqu'à ce qu'Abraham entende comment doit être la Mida de Chesed pour être celle d'Israël. Je crois que nous avons étudié ça, je pense que c'est avec vous déjà cette année, quand on a étudié la notion de la foi chez Abraham. Quel est le mérite de cette foi d'Abraham de croire quand Dieu lui dit « tu auras un enfant » Vous vous rappelez de cela? Et comment apparaît là toute une expérience difficile pour arriver à intégrer ce nouveau niveau de la foi auquel Abraham n'est pas habitué, et le fait qu'il acquiert lui confère un mérite qui pour nous n'est plus compté en mérite, mais qui pour Abraham est un mérite absolu. D'être capable de croire comme ça la première fois, c'est un mérite. Alors que maintenant, pour sa descendance, pour qui s'est déjà intégré, alors où est le mérite de croire quand c'est Dieu qui promet? Mais lorsque ça a commencé, c'était pas évident d'entendre cette promesse d'une telle foi. Vous vous rappelez de cela? Je ne veux pas revenir sur ce thème, nous l'avons étudié. Vous vous rappelez la controverse entre Rachi et Narmanide? On a étudié cela ou pas? Surtout ne répondez pas. Oui ou non? Vous êtes sûr qu'on n'a pas étudié? Ve'emin b'Hashem achshevalo tzedaka. Ça vous dit rien? Alors vous me laissez parler depuis cette phrase en l'air. Okay. On n'a pas étudié ça? Alors, on n'a pas fini l'histoire d'Abraham.
On s'est arrêté exactement au moment où Lot est parti à Abraham.
On s'est arrêté là? Bon. Bon, alors on arrivera donc à ce contexte. Mais il me semble que je voulais longuement parler de cela. C'est-à-dire les différentes étapes du cheminement, de la découverte de cette nouvelle manière d'être lié au Créateur au-delà des conditionnements naturels. Vous ne rappelez pas de cela? C'est pas avec vous? Top, d'accord. Ou à moins qu'il y ait une éclipse de la mémoire totale. Vous êtes sûr? On n'est pas arrivé là? Possible, c'est possible, si vous me l'avez dit. Bon, je dois simplement me souvenir du programme l'année prochaine. Alors, je reviens donc au problème. C'est-à-dire que la Midat HaChesed chez Abraham, ici, à ce niveau-là, elle est exclusive, elle est totale, donc hypertrophiée, exagérée, et c'est du trop plein de la foi, de la confiance, qu'apparaît cette faiblesse. C'est-à-dire que Abraham juge que même si ces personnes ne sont pas en Israël, elles seront sauvées quand même. Et c'est la raison pour laquelle il y a là, si vous voulez, une erreur de la vertu. Mais c'est une erreur de la vertu. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, dès que l'identité d'Israël sera constituée, alors ce genre d'erreur, on ne le fera plus. Okay. Je veux dire, il y a là une faute, mais qui n'est pas, chez Abraham, une culpabilité. C'est-à-dire, quand Israël fera cette même faute, pour Israël, c'est une faute. Et alors, il se dévoilera que ça avait commencé à Abraham. Mais au niveau d'Abraham, ce n'était pas une faute, c'était une vertu. Mais une vertu exagérée. Est-ce que vous suivez le raisonnement? Okay. Ça veut dire, quand la descendance d'Abraham tombera dans les mêmes erreurs, alors c'est imputé en faute. Mais où est la racine de cette possibilité d'une telle faute? C'est dans la vertu d'Abraham. Vous avez compris le raisonnement? Alors d'autant plus, si déjà Abraham sait que est un nefesh asher asu beharan, si Abraham sait cela, qu'il est chargé de faire ses convertis, comment se fait-il qu'il s'y réagit comme ça? C'est la raison pour laquelle la Gemara tout de suite note ce point. Il dit voilà où ça commence, l'éventualité de l'exil pour sa descendance. Alors j'ai utilisé cela pour notre sujet. que maintenant je vais décanter de tout cela en une seule phrase. C'est-à-dire, étant donné qu'il y a en dehors d'Israël des Neshamot d'Israël, il faudra donc aller là où elles sont prisonnières pour les délivrer. Mais ceci pour nous faire comprendre la force de l'initiative de Moïse, on ne peut pas sortir d'Égypte sans avoir fait ça. Et quelle était la difficulté? C'est que c'était trop improvisé. Et alors il en est sorti le veau d'or. Vous suivez? Mais quelle est l'initiative de Moïse? C'est d'avoir pris sur lui le risque qu'il y ait quelque chose de cet ordre, parce que son objectif est beaucoup plus fort, va beaucoup plus loin. C'est de faire que la sortie d'Égypte réussisse. Alors, même si on sort avec un handicap, eh bien, on prendra l'handicap. L'essentiel, c'est que la sortie d'Égypte réussisse. Vous voyez, à quel niveau il faut penser le problème, okay? Et d'ailleurs, vous vous rappelez, dans ce contexte, c'est Aaron lui-même qui va prendre l'initiative de leur faire le veau d'or. J'avais dit ça juste en une phrase vendredi. Il va dans le même sens, mais trop loin. Okay? Il a dit, si moi je le fais, je peux arriver à cachériser ça. Okay? Et alors, nous voyons le même dialogue, vous avez lu les textes, je suppose, entre Moïse et Aaron. Et lorsque Moïse dit à Aaron, mais pourquoi tu as fait ça? Okay? Il ne faut pas. Et Aaron lui dit, tu sais bien qu'on ne pouvait pas faire autrement. Le dialogue, enfin j'ai schématisé un peu, mais vous avez compris. Dans tous les cas, vous découvrez que ces textes ont une cohérence absolue dans le détail, mais qu'il faut les étudier à la loupe pour arriver à voir à quel niveau cela devient cohérent. Est-ce que c'est clair? Bon, j'espère que vous avez là un exemple supplémentaire, que ce ne sont pas des textes qu'on peut lire, car je vous ai dit vendredi, lire ça veut dire étudier. Okay? Qu'est-ce que tu veux demander?
Pourquoi ces termes verrouches correspondent à ces armes? Parce qu'il y a le terme nefesh,
ça veut dire... Ça veut dire, il y a non seulement le nefesh, mais même le rechouche. C'est-à-dire, le sens qui est évident au niveau nefesh, c'est le même sens au niveau rechouche. Il y a les personnes et il y a les valeurs. Et alors, là, c'est la même fonction, mais à deux niveaux. C'est-à-dire, dans cette définition de la fonction de l'exil, c'est d'une part qu'il y a des personnes, des sujets, des neshamot, qui sont concernés par l'identité d'Israël. Et là, il s'agit du guer à proprement parler. Mais non seulement ça, il y a le rechouche, qui sont les midot, les valeurs, qui se trouvent prisonnières de cette civilisation à l'intérieur de l'impureté qu'elle représente et qu'il faut délivrer. Mais c'est le même processus, c'est le même tarlir. Et effectivement, vous avez remarqué que la Gemara cite le verset tout entier. Teni an nefesh, v'arechush kachlach. Et c'est ce même... le rechouche, nous savons que Israël n'est sorti d'Égypte qu'une fois que, mais ça vous relirez les textes, les Égyptiens, pris de panique, leur ont donné tous leurs bijoux. Okay? Vous vous rappelez de cela? Bon. Et que même ils les suppliaient de prendre. Là, vous partez, prenez ça avec. Okay? Et c'est avec ces matériaux, si vous voulez, qu'on a construit le temple. Enfin, le Mishkan, dans le désert. Vous voyez? Mais ça, c'est au niveau des valeurs elles-mêmes. Mais il y a le nefesh, les personnes, et ça c'est la erevra. Vous avez compris, vous?
Et pourquoi c'est le meilleur homme qui a pu prendre le nefesh?
Oui, et Abraham l'a laissé. Et Abraham l'a laissé. Okay. Alors c'est là que la Gemara dit. Pour quelle raison la descendance d'Abraham va être frappée? Okay. Comprenez le problème qu'il y a là. Il y aurait une injustice que la descendance d'Abraham soit punie pour une faute qu'Abraham aurait faite. Et c'est le péché originel. Okay? 400 ans d'un exil pareil, parce que Abraham a laissé un butin dehors. Alors, retenez bien l'explication. Là, je me base sur le Maharal, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est lorsque la communauté d'Israël comme telle tombe dans cette faute, les enfants, okay? Qu'alors est imputé ce qu'avait fait l'ancêtre. Mais ce qu'avait fait l'ancêtre, c'est vertu. C'est quand les descendants le font que c'est faute. Ça veut dire quand ils le font en tant que faute, alors la racine était là. Il y a une tendance à cela. Et d'où vient cette tendance? De la vertu d'Abraham. Est-ce que c'est suffisamment clair? Alors c'est dit en propre terme dans la Gemara, parce qu'il y avait une sorte de paresse à faire entrer des Bnei Adam, Tahat Kanfa Shrina. Comment on dit ça en français, Rachlanout? Pas exactement paresse. Moi, c'est Rachlanout.
Hein?
Négligence. Négligence. Okay. Une négligence de cela, et alors, on est frappé d'exil. Tu les as laissés tomber dans l'enfer, va dans l'enfer les sauver. Vous voyez? Et alors la Gemara cherche, et où est la racine d'une telle tendance? Nous disons, voilà, un épisode de l'histoire d'Abraham qui nous l'éclaire. C'est déjà arrivé. Alors, tout à l'heure, j'essaie de vous l'expliquer du point de vue de positif. Cela vient de la vertu d'Abraham. Okay? Comme si il s'était dit, même Goy, ils seront sauvés. Okay? Et alors là, la décision arrive. Vous avez compris le problème? Donc, il avait une occasion d'intégrer dans sa famille ces personnes-là, et puis il les donne à qui? Au roi de Sodome.
Si cette situation ne semble pas la même, dans ce premier cas, ces gens là, sont passifs, c'est des prisonniers, ils n'ont rien demandé. Est-ce que dans l'autre situation, à la sortie d'Égypte, au contraire, ce sont les gens qui ont une part active, qui prennent part activement?
La Rome.
À la sortie d'Égypte, ils proposent eux-mêmes.
La Rome.
Là, ça semble pour eux en vivant. Il y a une deuxième chose.
Attends, j'ai tout le problème. Qui sont ces hommes-là, Ken? Qui sont ces hommes-là qui, au moment de Moïse, ont été le Haéléva, qui ont dit « On sort avec vous ». Okay. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Okay. Et là, à ce niveau-là, c'est la même situation. Ce sont ces personnes qui ont eu Isdamnout, comment on dit ça? Oui. Qui ont été dans les circonstances de pouvoir être liés à Israël et qui n'ont pas été. Ça veut dire ce Haéléva lui-même, d'où il vient? Rappelez-vous, ce que j'ai dit déjà ce matin. Okay? Faites bien l'effort de savoir que la destinée de chaque personne ne commence pas à sa naissance et ne se termine pas à sa mort terrestre. Okay? C'est-à-dire, selon cet enseignement de la Gemara, c'est la même identité. Ce sont ceux-là qui sont ceux-là. Okay? Ce sont des choses qui, pour nous, sont incompréhensibles. Comment ça fonctionne, comme je vous dis souvent. Tant qu'on n'a pas étudié ce qu'il faut étudier pour le comprendre, mais ce n'est pas de votre âge. Et ce que je vous souhaite, c'est que vous arriverez à un stade d'étude, vous apprendrez ces choses-là. Comment ça fonctionne, laissez-le sous forme de postulat. Okay? Mais c'est ce qu'il faut apprendre pour comprendre ce que veut nous dire ici la Gemara. Okay? Parce qu'il y a eu cela au temps d'Abraham, alors il y aura cela pour sa descendance. Et ça se relie là. Okay? Disons, même si à l'échelle individuelle, c'est pas la même personne, c'est la même identité. C'est-à-dire, au temps d'Abraham, il est arrivé que des hommes qui auraient pu devenir Israël ont été laissés en dehors. Qu'est-ce qui arrive au temps de Moïse? Que des hommes veulent participer de l'histoire d'Israël. Alors, les deux sont liés. La Gemara va beaucoup plus loin, en montrant que l'histoire de l'exil elle-même avait sa cause dans ce fait-là. Vous voyez, chaque fois qu'il faut mettre en évidence une dimension d'un thème, alors on s'occupe de lui comme s'il y a un gros plan sur cette dimension-là. C'est une dimension du thème général de Galout Géoula. Mais il faut le comprendre comme s'il n'y avait que ça. Après, on voit ce qu'il y a à côté. Vous y êtes? Alors voilà ce que dit la Gemara. C'est ce qu'on appelle, dans le langage talmudique, un lavdavka. Ça veut dire, on va nous dire, c'est l'unique raison. En réalité, ce n'est pas l'unique raison. Il y a tout un faisceau de raisons, mais on s'occupe de celle-là maintenant. Okay? Qu'il n'y a eu d'exil que pour aller chercher ce rechouche. En réalité, la fonction de l'exil, c'est beaucoup plus ample que cela. C'est sûr. Mais c'est de cela dont on s'occupe pour le mettre en évidence. Vous avez compris le problème? Alors, voyez les deux contextes. Réfléchissez bien. Il y a une économie de l'histoire humaine attachée à la rédemption de l'identité humaine depuis l'origine. Quiconque doit y participer, doit y participer. Il est arrivé qu'à l'origine de cette étape-là, Abraham, on a laissé dehors quelque chose. Alors, c'est relié au fait que lorsqu'il faudra aller dehors, c'est précisément pour aller rechercher cela. Et c'est à deux niveaux, comme on a vu tout à l'heure avec... comment t'appelles ? Abraham. Les personnes et les valeurs. Et rattachez ça à ce qu'on a déjà étudié dans les cours que je vous ai fait sur l'exil, okay, que chaque communauté de l'exil revient imprégnée des valeurs propres à tel ou tel paysage de l'exil. Et avec ses convertis. Entre-temps, elle a laissé là-bas les 4 cinquièmes. Ça, c'est le tri. Vous suivez? Est-ce que c'est clair? Je vais essayer d'ajouter un principe. Et on va essayer de voir ça un peu sous forme de croix. Pas la croix gammée. Quoique gamme, la croix gammée, c'est gamme la croix. Mais vous voyez l'histoire, si vous voulez, que je vais vous appeler horizontale. L'histoire de l'humanité. Elle se développe dans sa cohérence propre. Elle est traversée par une histoire verticale des âmes, des sujets, des hommes, si vous voulez, âme c'est en Sfarad et homme c'est en Ashkenaz, mais c'est la même chose, et qui la traverse, et puis de façon perpétuelle jusqu'à ce qu'elle réussisse. Il y a l'histoire de l'humanité, et il y a l'histoire des individus qui la constituent. Est-ce que vous comprenez cela? L'une est horizontale et l'autre est verticale, si vous voulez. Est-ce que c'est clair? Et alors, l'histoire de l'humanité se fait, mais elle est constituée par quoi? Par des destinées individuelles qui la constituent. Est-ce que c'est clair? Et alors, nous avons cette génération des convertis potentiels du temps d'Abraham, eh bien, que nous retrouvons dans le problème des convertis plus que potentiels au temps de Moïse, et ainsi de suite. Et pour beaucoup de thèmes, c'est le même problème. Okay? Comme si un thème d'identité qui n'a pas été suffisamment mené à sa perfection est rejoué dans l'histoire lorsque l'occasion s'en présente. Est-ce que c'est clair? Bon, je vais vous dire, je vous en parle de façon formelle et intellectuelle, je fais tout ce que je peux pour ne pas vous dire ce que vous n'avez pas à entendre. Mais il est bien évident que ce sont des thèmes pour lesquels il faut une préparation beaucoup plus grande. Dans 40 ans, vous comprendrez de façon très simple de quoi il s'agit. Mais il faut d'abord s'habituer à cette idée. Que c'est comme ça que ça fonctionne. Comment ça fonctionne? On ne sait pas. Mais que c'est comme ça que ça fonctionne, on sait. Vous voyez ce que je veux dire? Okay. Par exemple, quand chacun d'entre vous se demande « Mais qui suis-je ?» Eh bien, ne faites pas l'erreur de croire que vous avez commencé à exister avec votre naissance d'état civil. Okay. Vous êtes une identité humaine en jeu dans l'histoire depuis le premier homme. Et puis, qui rejoint le problème qu'elle a à résoudre chaque fois qu'il se passe dans l'histoire de l'humanité. Et ne m'obligez pas à dire plus. Est-ce que c'est clair? Non, c'est sûrement pas clair, mais il ne faut pas que ce soit clair. Donc, tu veux savoir qui tu es? Eh bien, tu es toi et personne d'autre. Sache-le. Et tu retrouves dans ta mémoire qui tu es. Et comme tu ne le retrouveras pas, c'est pas grave. Mais sache que c'est comme ça que ça fonctionne. Bien sûr. Quand on est honnête avec soi-même. Qui on est? Tout simplement. Et quand on sait qui on sait ce qu'on a à faire. Et alors, il faut être très scrupuleux, parce que la plupart du temps, on sait ce qu'on avait à faire quand on a échoué. Et c'est trop tard, il faudra recommencer la prochaine fois. Alors, bon, alors de ces choses-là, on parlera un jour dans 40 ans. Donc, alors voilà, pour ce premier point. Ken, ouvre un peu la fenêtre. Oui.
Oui.
Oui, eh bien non, très bien comme question, mais c'est juste le contraire. Okay. On voit que le roi de Sodome dit à Abraham, tenez un nefesh. Et le rechouche, prends-le. Et Abraham répond, même le rechouche, je ne prends pas. Ça veut dire, le nefesh et le rechouche garde. Attendez, je n'ai pas bien expliqué. Et pourquoi la Torah nous raconte une anecdote pareille? Qu'il y a eu une guerre entre 4 rois et 5 rois, que finalement Abraham intervient pour sauver Lot, et puis on nous donne même les noms des rois, tout ça, il y a quelque chose derrière. Okay. Et puis, finalement, un petit épisode, et au moment du partage du butin, voilà ce qui se passe. Il faut comprendre ce récit et ce point de détail du récit dans le contexte de la Torah tout entière. Okay. Alors, on sait déjà que Sodome, le roi de Sodome, est un principe du côté du mal. Abraham est un principe du côté du bien. Ils ont dû faire alliance pour sauver Lot. Okay. Et dans cette alliance, le roi de Sodome, comme il est, dit ce qu'il veut. Moi, je veux les personnes humaines. Toi, tu prends les choses matérielles. Okay? Et Abraham laisse faire. Par inadvertance? Non, parce que c'est sa vertu. Ce qui est à toi, garde-le. Ce qui est à moi, je le garde. Okay? Et là, il y a une stratégie qu'il faudra corriger à travers toute l'histoire d'Israël jusqu'à la fin des temps. Ou si vous voulez, en tant que quoi Israël est dans ce cas, en tant que fils d'Abraham, okay, d'où vient cette tendance à être comme ça d'Abraham? Mais en Abraham, c'est une vertu. C'est dans la descendance historique que ça peut être une faute. Écoute, la perversité à des niveaux psychiques et spirituels dont tu n'as aucune idée. La perversité, elle est dans l'âme. Et alors c'est l'âme qui veut. Réfléchis à ça. Et le mot de rechouche est un mot formel. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Ken? Et quand on le voit au niveau le plus matérialiste, alors on dit c'est des richesses, du butin des richesses, Ken. Il s'agit de valeurs, okay, qui sont à tous les niveaux, à tous les niveaux, au niveau de matériel aussi. Okay. La différence, c'est que Nefesh, c'est les sujets humains. Rechouch, c'est les midot, c'est les valeurs. Okay. Bon, habituez-vous à nuancer cela. Voilà ce que je voulais vous citer pour ce problème. Okay. C'est que ce problème du Erev Rav, au moment de la sortie d'Égypte, a déjà une racine bien plus ancienne. Ce thème qu'il y a à l'échelle individuelle, en dehors d'Israël constitué ou en constitution, des âmes qui sont censées en faire partie, mais qui sont prisonnières du monde extérieur. Okay? Et que lorsque la Géoula arrive, si elle n'arrive pas pour eux aussi, c'est un échec. Bon, je crois que maintenant l'idée est simple à comprendre. Comment ça fonctionne? Ça, personne ne peut le savoir. Ça fonctionne. Et rattacher ça au thème du tri dont je vous ai parlé. L'histoire, c'est un tri. Okay. On met en jeu une quantité d'êtres et elle dira ce qu'elle est. Et ce n'est qu'à la fin qu'on sait qui est d'un côté, qui est de l'autre. Tant qu'il y a la patience de l'histoire, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas d'ultimatum du jugement. Vous voyez quel est le problème? Non, je vous dis ça parce que nous vivons un temps accéléré du point de vue de ce tri. Il n'y a pas de doute que le tri s'accélère. Okay. Mais tant que le temps dure, et bien le temps dure. Et chaque fois que on était quelque part, on est passé de l'autre côté, d'un autre côté. Eh bien, comment on va se relier avec ceux qui sont restés dans le monde ancien? En se rappelant comment on a été soi-même avant. Et que si c'est arrivé pour moi, ça peut arriver aussi pour l'autre. Vous comprenez pourquoi il ne faut pas durcir le jugement? Je vous ai souvent dit cela comme ça. C'est clair? Faites bien attention à cela. Okay. La seule inquiétude qu'on peut avoir, c'est est-ce que les événements laisseront le temps d'une telle patience. C'est pourquoi il faut accélérer, mais sans juger, sans condamner. En tout cas, surtout pas de la part de celui qui a été dans ce cas-là. Ça y est, c'est clair? Bon, je referme la parenthèse. Alors on arrive maintenant, prenez le livre de Shmot. Ouais, vous avez compris au moins le raisonnement concernant ce problème du RM. Alors, nous allons étudier une deuxième notion par rapport à ce problème. Regarde, tu vas aller au bureau. Tiens, tu vas aller toi. Et tu me donnes dans mon micro de Dorot le livre de Shemot. C'est la nature de la relation à Eretz Israël. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est très simple à comprendre. Les tribus d'Israël sont d'Israël. Ça veut dire que leur personne est reliée à cette terre d'Israël. Tandis que le Erev Rav, ce n'est pas le cas. Puisque par définition, ils étaient des hommes d'un autre paysage terrien, terrestre. Okay. Voilà, je vais peut-être vous étonner, mais on revient toujours à notre problème. Okay. Lorsqu'il y a une division dans le peuple d'Israël par rapport à Eretz Israël, ceux qui sont dehors, c'est ça le Erev Rav. Parce que finalement, ils se relient à la Torah, mais pas à Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'originellement, ils n'étaient pas d'Eretz Israël. C'est d'eux que vient cette difficulté. Cet énorme étonnement. Tous ces Juifs qui sont solidaires avec Eretz Israël, parce que c'est écrit dans la Torah, Terre Sainte. Comment c'est possible? Eh bien, voilà comment c'est possible. Ça vient du Hébreu. Je vous ai peut-être étonné. Et là, le critère est très clair. Lorsque le Hébreu fait la paix avec la Torah, alors il y a un verset qui parle d'Eretz Israël. Oui. Et alors, avec motivation religieuse de la Torah, parce qu'un verset qui parle d'Eretz Israël, c'est leur terre sainte. Mais c'est leur terre sainte, c'est pas leur terre. D'où ça vient? Ça vient de la différence entre les Hébreux et les autres. Je suis en train de vous dire une chose énorme. C'est-à-dire, quand vous avez un goy sioniste, il est plus d'Israël qu'un juif religieux, pas sioniste. Parce que, un, il est des tribus d'Israël, son âme, elle s'est perdue comme ça, et l'autre, il est du Hébreu. Vous voyez que les choses ne sont pas si simples. Enfin, en tout cas, elles deviennent claires. Okay. Ça veut dire que le critère de division, il est essentiellement là. Et je crois que l'explication est suffisante. Tous Erevrav, ils venaient d'autres pays. Leurs racines étaient dans d'autres pays. Et par conséquent, ils vont avoir, vis-à-vis de l'État d'Israël, une racine sublimée, datite, okay, terre sainte. Vous avez compris comment on peut arriver à des choses étonnantes en lisant comme c'est écrit? Comment ils n'en sont pas responsables? Tant que vous n'arrivez pas à comprendre cette chose élémentaire, que chacun est responsable de ce qu'il est, à cause chacun de ce qu'il fait, mais pourquoi il fait comme ça? C'est parce qu'il est comme ça. D'ailleurs, c'est même pas une question de responsabilité, une question de comprendre les faits. Il y a un problème étonnant. Il y a dans le peuple d'Israël deux parties. Ceux qui ça va de soi, pour qui ça va de soi, qui sont reliés à Eretz Israël, et les autres ça va pas de soi. D'où ça vient? Et bien voilà, on a l'explication ici. Il y a d'autres explications convergentes. Mais ici, il y a un point extrêmement important. Est-ce que c'est clair ce que je dis là?
Si vous voulez dire qu'ils ne sont pas intégrables, si après...
Mais non. Ça veut dire qu'ils ne sont pas intégrés. Pas encore. Ça, t'es pessimiste. Tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, il faut être optimiste. Vous savez, on peut se noyer encore à 15 cm du rivage. Ça veut dire qu'on est encore à 15 cm.
Pendant cette génération d'Israël, avant, jusqu'à la seconde guerre, ils ont passé tout ce temps, ils ont eu le temps de...
Mais je te parle, prends le problème dans une génération. Dans une génération, et quel que soit le passé, de l'habitude, de la fidélité, des études, de tout ce que vous voudrez, de la mémoire, nous prenons le problème à une génération précise. La sortie d'Égypte. 4/5 du peuple hébreu ne sort pas en Égypte. Ça veut dire qu'ils ont opté pour l'identité de l'Égypte. Okay? Bon, c'est ça qui travaille derrière. Ça veut dire d'un Shoresh, encore d'une racine encore plus antérieure à Abraham, il y avait cette Halouka. Il y a les fils de Léa, les fils de Rachel, ça vous apprendrez plus loin. Et ça vient de loin, cette différence. Alors prenons-la au niveau du Hébreu, prenons-la dans la génération contemporaine. Okay? Et je parle des hommes juifs qui sont tous rattachés à la Torah, okay? Ou ici, ou là-bas, ou en Angola. Pour les uns, ça va de soi, qu'Eretz Israël, c'est leur terre, et pour les autres, ça ne va pas de soi, c'est leur terre sainte. Okay? Et c'est tellement énorme. Essayez de voir ça avec des yeux extérieurs au peuple juif. Quand un sociologue non-juif étudie ce problème, il ne comprend pas. Il dit que c'est ce peuple. Hein? Pendant 2000 ans, ils ont prié pour avoir cette terre, et puis maintenant qu'ils l'ont, ils n'en veulent pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce que je veux dire? Les juifs, nous avons nous-mêmes de la complaisance pour nous-mêmes. Mais essayez de rencontrer ce problème avec les yeux d'un observateur non-juif. Je dis, mais ce peuple-là est fou. Okay? En réalité, allons plus loin. Ça veut dire qu'il n'y a pas en eux un sentiment d'appartenance à cette terre. Et d'où ça vient? Il n'y a pas encore suffisamment, il faut nuancer tout cela. D'où ça vient? Eh bien, ça vient de ce qu'ils sont beaucoup plus enracinés dans un autre paysage que dans le paysage d'Israël. Ce paysage d'Israël n'est pas dans leur mémoire ancestrale. Alors, j'ai l'impression que je touche un point, comment dire, vulnérable. Comment on dit ça? Sensible. Okay. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que ça nous fait comprendre pourquoi même des hommes juifs attachés à la Torah et en dépit de ce que la Torah dit, ne sont pas reliés avec Israël. Parce qu'il y a un chorège différent. Ne jugez personne. Parce que chacun est en cours de rédemption. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? Quelle est ta question?
D'années à l'échelon d'un peuple, surtout quand il y a, même avec Moïse, ça a duré 40 années dans
le désert. C'est pourquoi je dis. C'est pourquoi, sans Moïse, tu sais pas. Parce que même quand Moïse y était, même quand Moïse y était au temps de la sortie d'Égypte, eh ben ils l'ont pas vu comme Moïse, ils l'ont vu comme un agitateur politique. Revenons au problème. Pas tout à la fois. Ça veut dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme j'ai dit tout à l'heure. Bien sûr. Le problème, c'est qu'à 15 cm, on peut encore être perdu, mais dans 15 cm, on est sauvé. C'est sûr. La question, je la répéterai souvent, est-ce que les événements vont nous laisser le temps? Mais en tout cas, on comprend pourquoi il y a cette espèce de perplexité, en tout cas, d'expectative. Parce qu'il ne devrait pas y avoir d'expectative. Regardez, il y a des morceaux entiers du peuple juif qui, dès qu'ils ont entendu « c'est possible », à pied, sur le ventre, à plat ventre, ils sont venus. Okay? Et il y en a d'autres qui ont toutes les possibilités de venir, mais qui ont des problèmes. D'où viennent ces problèmes? Voilà d'où viennent ces problèmes. Est-ce que c'est clair? Okay. Rappelez-vous, entre autres choses, quand les Juifs du Yémen, qui eux avaient des raisons de savoir que c'était grave pour eux, ont entendu... pour eux, ça faisait près de 3000 ans après, parce que c'était eux, les exilés de Beit Rishon, qui sont parvenus. Okay? Ils ont entendu, ça y est, on peut. Eh bien, à genoux, ils sont venus. Okay? Et donc, le tikkun s'est fait pour eux. Le tikkun a réussi. Okay? Tandis que d'autres sont encore en tikkun. C'est pas de ça que je voulais parler. Que le tikkun soit possible, bien sûr, il est possible. C'est d'où vient ce problème. Voilà, ça y est, c'est clair. Alors, c'est pas une question responsable ou pas responsable. Dans tous les cas, on est responsable de ce qu'on est. Je pense que...
Parce que j'arrive pas à le comprendre. Parce que, par exemple, vous dites qu'en Égypte, selon que ce soit des descendants de Rachel ou Léa, bon, qu'est-ce qu'on peut faire à la personne dont on descend?
Écoute, je vais te dire. Quand on dit à quelqu'un, voilà qui tu es, et voilà tes défauts, voilà tes qualités. Okay? Alors fais attention, tes qualités, tu vas les faire jouer grâce à Dieu, tes défauts, corrige-les. Okay? Et puis, c'est le problème de tout homme dans tous les problèmes humains. Okay? Et puis, qui va dire, eh ben bon, oui, j'ai pas fait ça parce que j'ai tel défaut, mais on l'avait prévenu. Okay? Là, je pense que c'est clair, il n'y a même pas expliqué ces choses-là. Ou bien ça va... Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ce problème de la relation à Eretz Israël, il y en a deux, finalement, d'ailleurs, il y en a trois. Il y a le problème, pour chaque juif, de la relation au peuple juif, c'est-à-dire à tous les juifs, quels qu'ils soient, le problème de la relation à Eretz Israël, le problème de la relation à la Torah, ce seraient des choses qui devraient aller de soi. Ça ne va pas de soi. Alors on se demande pourquoi. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que nous, qui nous posons notre problème d'identité, nous avons une certaine sorte de complaisance vis-à-vis de nous-mêmes. Mais qu'un observateur objectif étudierait cette question, il se dirait, ces gens-là sont fous. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne parle pas des juifs qui sont prêts à devenir autre chose, à partir ailleurs. Cela, c'est un autre problème encore. Mais c'est ceux qui se réclament de l'identité juive authentique, mais de façon contradictoire. C'est-à-dire, je suis juif de cette manière-là, mais je ne le fais pas. Ça, c'est un problème incompréhensible, objectivement. Vous y êtes? Alors, vous voyez que derrière, il y a des ouvertures d'explication. C'est que le peuple juif est un... Par rapport à Eretz Israël, en tout cas, le peuple juif est un ensemble où il y a deux polarité. Ce dont, si vous prenez le postulat que chaque manière d'être homme est corollaire d'un certain paysage, rappelez-vous Judas Lévi, okay, l'homme c'est l'homme de la terre, chaque manière d'être homme est l'homme de telle terre. Je pense que c'est clair. Okay. Et si le peuple juif est un peuple cosmopolite, eh bien d'accord, peuple cosmopolite, non, mais pendant 2000 ans il se réclame peuple de cette terre, seulement il reste dehors. C'est ça la chose incompréhensible. Vous voyez ce que je veux dire? Le peuple juif s'est toujours connu et proclamé comme peuple exilé, mais exilé d'Eretz Israël. C'est clair. Et alors, d'où vient cette contradiction? Eh bien, c'est que, je vais dire peut-être, sans doute, okay, en nuançant, eh bien, c'est que le chorèche profond de tel ou tel individu, même pieux, n'est pas d'Eretz Israël. Alors il faut qu'il l'acquiert. Alors tu me dis, mais il ne l'a pas. Oui, mais c'est son problème de l'acquérir. C'est de ça qu'il se réclame. Voilà, c'est ça le problème. Alors encore une fois, ce que tu as dit, toi, Élie, tout à l'heure, est important. Il est bien évident que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ce n'est pas notre problème maintenant. Notre problème, c'est de comprendre qu'est-ce qui fonctionne là. Oui. Et vous voyez, quand vous allez retrouver ce récit, en fait, quand on est sorti d'Égypte, en fait, quand on a passé la mer Rouge, en fait, quand on a reçu la Torah, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a des problèmes économiques de nourriture. Qu'est-ce que dit la partie de ce peuple? On retourne en Égypte. Okay. Ils sont fous, quoi. Non, c'est leur pays. Vous y êtes? Voilà. À la limite, c'est clair. Donc, et ils trouvent des authentiques Hébreux, descendants des tribus Hébreux, ça c'est pour répondre à la question que tu n'as pas posée, pour se mettre à leur tête. Oui. Bon. Et, alors, nous avons un deuxième point à étudier. Ken?
Non, je comprends pas comment après plus de 7 générations, le temps du premier pays Kishon, après avoir vu comment ils ne sont pas intégrés au paysage, comment ils ne sont pas sortis de le, du, enfin, leur identité, n'a pas décroché l'identité d'Israël pour s'accrocher à l'identité d'Israël. Et comment ils portent toujours en eux ce problème de ne pas.
Écoute, il n'y a aucune différence entre 7000 ans et 7 jours. C'est ce problème-là qu'ils ont résolu et ça prend le temps qu'il faut.
Vous avez dit qu'au bout de cette génération, et soit ça... leur conversion, enfin, avec les cachers, et là, ils participent à Israël. Solo, dans ces cas-là, il y en a qui seraient retournés en Israël.
Moi, j'ai parlé de cette génération. Moi, j'ai parlé de cette génération. Ça ne me ressemble pas. Tu as dû lire ou entendre quelque chose de ce genre. À partir du moment, la Gemara est très claire. Taval ve'ala areu Israël lechol davar. Okay. Dès que la Tevila est prise, on est Israël sans problème. Et peut-être qu'il a étudié ça autrement. Et c'est rien que le problème de la prophétie qui n'est acquise que par les enfants. Ou alors je ne sais pas de quoi tu parles, mais moi j'ai jamais dit il faut cette génération, j'ai jamais dit ça. Rappelle-moi exactement de quoi il s'agit, dans quel contexte. Ça je ne me rappelle pas. Et c'est tellement comment dire, étranger à ce que je sais, c'est que je suis pratiquement sûr que ce n'est pas de moi que tu as entendu.
Même si, pas ce problème de cette génération, comment ils sont pas.
Mais d'où tu es sorti ça d'abord, les 7 générations? Ah oui, tu as relié deux choses différentes. Tu penses pas à ça? À quoi tu penses? Tu penses à autre chose, mais que tu n'as sûrement pas entendu de moi dans ce problème. Oui, faites attention au mélange, hein, le grand mélange, c'est dangereux.
Je
attends, laisse-le finir. Non, mais pose ta question quand même. Là, enlève les 7
minutes. Ils ne sont pas habitués au paysage d'Israël, à pas avoir, enfin, puisque leur descendance a participé à l'identité d'Israël et a été pendant toute la période du pays Kishon avec Israël. Comment cette difficulté est toujours présente
Mais bon, c'est ça le problème qu'ils ont à résoudre. Et plus il est difficile, et plus il faut de temps. Il n'y a qu'eux qui pourront réussir, mais c'est eux qui échouent. Tant qu'ils échouent. Et tu vois bien, une partie comprend plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire comprend plus vite? C'est pas intellectuel, ça se déclenche plus vite. Okay? Le tikkun se fait plus. Une partie, ça tarde. Et on a rendez-vous à la fin des temps. Le prix à payer entre-temps, c'est la quantité de gens chez qui ça se déclenche plus vite. Okay? Chez qui le tikkun se fait plus vite. Là, ici, le nombre joue. Okay? Mais il n'y a pas de problème de principe. Sinon, est-ce que les événements vont nous laisser le temps? Il est évident que, à moins d'être complètement rachat, un juif qui croit dans la Torah finira par arriver en Eretz Israël. Lui, ou son descendant à la 7e génération, si tu veux, à la 70e. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, qu'est-ce qui joue? Où est l'obstacle? D'où ça vient? On a une première réponse ici. Okay? C'est clair? Et le fait que ça puisse prendre tellement de temps, ça ne fait pas problème. Ou alors c'est que j'ai pas compris ta question. Parce que je te réponds, ça, cette réponse j'ai entendue d'un grand maître qui m'a dit Imagine un oiseau qui a été pris dans la boue. Et puis il passe toute sa vie à se nettoyer. Et voilà, il arrive qu'il a juste un tout petit peu de boue sur les ongles. Il a encore de la boue. Mais c'est, et donc ça l'empêche de se présenter devant le roi. Il y a encore un peu de boue. Mais il y a juste un tout petit peu. Et ça a pris beaucoup de temps. Mais il reste juste un petit peu. Mais même s'il reste juste un petit peu, il y a de la boue. Vous avez compris l'image. Okay. Alors on a mis 2000 ans à se débarrasser du non-amour d'Eretz Israël. Okay. Il reste encore un petit peu. Et le plus grand obstacle, c'est cette notion de terre sainte. Avec ça, on croit qu'on est sauvé. On va faire un petit tour au Kotel et ça y est. Okay. Parce que j'espère vous avoir fait comprendre, pas seulement moi, le pays, okay, que c'est très différent, ça n'a rien à voir. Se relier pour un juif à Eretz Israël comme une terre sainte, ou c'est mon pays, ça n'a rien à voir. Okay. Je pense que c'est clair, quand la mutation se fait, elle se fait, et puis il s'agit d'autre chose.
C'est pas l'idéologie chrétienne qui a plaqué
Très peu, parce que l'idéologie chrétienne venait déjà de là. Okay. C'est simplement le symptôme de la maladie. C'est sorti de la l'idéologie chrétienne aussi. Et quand ça recommence, c'est la même cause de la maladie qui joue. Tu suis ? Ils n'avaient pas besoin des chrétiens pour apprendre ça. C'est eux qui l'ont inventé, le christianisme. C'est clair ce que je dis ?
Les enfants qui arrivent font partie de ce élève-là.
Les ?
Les enfants qui font partie de gens qui font partie de ce élève-là seraient eux-mêmes, font quand même partie de ce élève-là.
Pas forcément. Il peut y avoir des enfants de ce élève-là chez qui viendraient des Neshamot d'Israël. Il peut y avoir des enfants d'Israël chez qui viennent des Neshamot du élève-là. Ça dépend. C'est pas une question d'hérédité par... si je t'ai bien compris, tu as bien fait de poser la question. C'est pas une question d'hérédité fatale. C'est une question de manière d'être, d'identité. Ça dépend comment l'enfant a été conçu au moment de la nuit des noces. Au moins, il y a des halakhot pour ça. Comment on fabrique les bébés. Pour la culture des petits pois, il y a des règles. Pour la culture des petits hommes, il y a aussi des règles. Et si au moment où le bébé a été fabriqué, la mahashava n'était pas cachère, va savoir quel neshama va venir chez ce bébé. Les parents ont une énorme responsabilité sur ce que sont leurs enfants. Parce qu'ils les fabriquent. Je pense que j'ai été clair. Okay.
Alors, vous
savez que ça et ne jugez pas vos parents. D'accord. Au sein d'une même famille, il y en a un qui a une neshama d'Israël et l'autre qui a une neshama du Erevra. Et si c'était que comme ça, ce serait simple. Il y en a un qui a plutôt une neshama d'Israël avec un peu de Erevra et l'autre plutôt. Oui, la neshama choisit le corps qui lui est. On va parler. La neshama vient dans le corps qui lui est approprié. Mais ça peut aller même beaucoup plus loin. Vous avez d'authentiques goy qui, par hasard, fabriquent un corps pour neshama juif. Il y a une neshama juif qui vient chez eux. Et vous avez d'authentiques juifs qui, pas par hasard, fabriquent un corps pour neshama goy, elle vient chez eux. Et c'est un autre problème. Je vous dis cela, ne plaisantez pas sur ces choses-là. C'est des choses importantes. Okay. Et je vous dis cela pour vous faire comprendre qu'il n'y a rien pour rien. Okay. Il n'y a rien pour rien. Et il y avait des communautés et où on ne donnait pas sa fille en mariage à quelqu'un d'une famille dont on n'était pas sûr qu'il pratique les lois du mariage. Vous comprenez ? Pourquoi ? Bon. Encore une fois, a posteriori, tout peut s'arranger, mais quel est le prix à payer ? C'est le prix à payer. Et il y a des choses qu'on ne peut pas arranger, d'ailleurs. Il y a des niveaux. Et c'est pour vous dire qu'il y a une économie générale de ces problèmes qu'il faut comprendre à la racine des choses. Et d'ailleurs, ça m'est très difficile de répondre à vos questions parce que vous avez compris, je ne veux pas répondre dans le détail. Mais au moins, vous pouvez comprendre quel est le sens de la cohérence. C'est clair ? Et puis, je vous répète, comme chaque fois, ne faites pas comme ces étudiants en médecine qui sont persuadés d'avoir toutes les maladies parce qu'ils ont lu un manuel de médecine. Okay ? Vous comprenez, ne mettez en question ni vous ni les vôtres dans ces problèmes-là. Ce sont des règles générales qu'il faut comprendre pour elles-mêmes. Est-ce que c'est clair ? Et si vous avez un problème particulier, alors on fait une shélach hacham. on demande à un chacham, dans ce cas précis, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais pour le moment, dans ce cours et dans cette école, c'est que vous compreniez de quoi il s'agit. Ne vous mettez pas en question, n'ayez pas des cauchemars de comment ma mère m'a fabriqué. Bon. Ça y est, c'est un peu clair ce que je vous ai dit là. Et il faut s'approcher de ces choses-là avec beaucoup d'humour et pas d'ironie. Ça n'a rien à voir. L'humour et l'ironie, c'est pas la même chose. Top, qu'est-ce que tu veux dire?
Est-ce qu'on peut pas, des fois, vous dites que les parents peuvent avoir des enfants qui finalement.
J'ai pas dit ça comme ça. Je dis qu'une neshama vient. Les enfants sont juifs. Mais la neshama, elle est d'une origine.
Par contre,
et ça travaille.
Par contre, pour savoir si quelqu'un.
Si déjà tu sors, rentre avec. Merci. Oui.
Par contre, c'est parfois dans les générations suivantes qu'on verra si quelqu'un.
D'accord. Bien sûr. Ça veut dire que le privilège des générations vivantes maintenant dans l'histoire, c'est de pouvoir arranger le destin des générations précédentes. C'est le privilège de la réalité du.
D'accord.
Mais je comprends bien, tu ne comprends pas. C'est le sujet que nous avons aujourd'hui. Comment ça fonctionne, vous ne pouvez pas comprendre. Mais que ça fonctionne comme ça, ça vous donne une cohérence du problème. Encore une fois, je pense que c'est la seule chose que je me préparais à dire si j'avais eu des...